Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Voici la dernière émission de la saison 2018-2019, déjà. Nous devions la réaliser avec Edgar Morin, qui a, je vous le rappelle, 98 ans. Lorsque j'ai pris contact avec lui en juin, il me répond par mail « Cher Michel, malheureusement je ne pourrai pas, car je pars au Brésil ». Il a effectivement été au Brésil, mais hier soir il était à Rome. Comme si Edgar, à la fin de sa vie, voulait faire le tour du monde, ou une partie du tour du monde, une dernière fois, avant de quitter cette terre. Alors, Edgar, nous le retrouverons l'an prochain pour une émission tout à fait inédite, dont je vous dirai pas le thème, mais sur laquelle Edgar est tout à fait d'accord et que nous devrions enregistrer pendant les vacances. Mais cette émission, nous la ferons avec Edgar au début et avec Edgar à la fin, en partant de deux livres, de ses deux derniers livres. Mais avant cette émission, il me faut quand même rendre hommage à Michel Serres, qui nous a quittés récemment. À Paris, d'où je reviens, plusieurs vitrines présentaient les livres, tous ses livres, sauf un. C'est celui que je prendrai pour lui rendre hommage. Quel est donc ce livre que je n'ai pas vu dans aucune vitrine? C'est Solitude, le sous-titre Dialogue avec, sur l'engagement, et c'est un livre qu'il a réalisé avec son fils Jean-François. Alors, Michel, pour vous dire au revoir, je prendrai des extraits de ce texte, de ce livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le dialogue avec Jean-François, votre fils, et on voit à travers ces extraits que je vais prendre le prolongement que Michel a. Écoutons. Jean-François. J'ai senti que l'intellectuel que tu étais, intéressé par les questions que mon engagement faisait émerger au fil de nos échanges. C'est pourquoi j'ai souhaité avoir avec toi un dialogue plus approfondi. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette dimension. Et puis tu es mon père. Cela n'arrive pas si fréquemment que nous échangions ainsi en profondeur tous les deux. Plus loin, Jean-François aussi. Il me semble que nos deux parcours de vie sont traversés par des forces souterraines. Tu as traversé la sortie des deux grandes guerres du XXIe siècle, la tension vers la paix et la prospérité avec la libération de l'emprise des collectifs, tandis que de mon côté, j'ai évolué dans une société développée en paix, dans un monde où les grands combats et les grandes utopies étaient derrière nous. Vous écoutez bien, et les grandes utopies étaient derrière nous. Et où le sens qu'il y avait à être là était beaucoup moins évident. Mon parcours et mes expériences de vie ont été à première vue disparates, comme s'il n'y avait pas de sens particulier à vivre à notre époque. J'ai la sensation d'avoir été tout le temps traversé justement par cette tension entre isolement social et nouvelle appartenance. À un autre moment, Jean-François, pardonnez-moi, je trouve que c'est un miroir très intéressant, écrit et dit « Je fais un autre constat, cette société finalement est assez superficielle, les relations y manquent de profondeur, elle manifeste un vide profond, sans doute justement parce qu'il manque de l'engagement dans les relations, quelque chose de l'ordre de la fraternité, qui pour moi est un ressort essentiel de l'être humain. Vous avez bien entendu qu'il y a de l'ordre de la fraternité, qui pour moi est un ressort essentiel de l'être humain. À la fin de l'émission, nous terminerons avec le dernier livre d'Edgar, qui porte justement sur la fraternité. Et Jean-François continue, « Dans ma quête qui m'a mené sur toutes sortes de chemins, y compris des chemins de traverse, c'est auprès des plus pauvres que j'ai rencontré cette fraternité. » Et son livre continue, et je prendrai le dernier extrait. Jean-François dit à son père, « Ces échanges nous ont permis d'échanger plus en profondeur et de nous rapprocher aussi. » Ce dialogue entre le fils et le père m'a profondément troublé, impressionné. Et à propos de la solitude, c'est un hommage aussi à l'agir de Jean-François, qui reconnaît que son père était un intellectuel préoccupé de la pensée. Et Jean-François nous rappelle cette phrase de Jean-Valéry, « L'homme est action où il n'est pas ». Alors Michel, merci de ta contribution dans le domaine de la pensée. Jean-François, merci de ce dialogue et de ce prolongement. et surtout de ton action. Cette émission, sur ce monde où va-t-il, nous allons essayer d'en faire une synthèse. Mais nous allons d'abord écouter Edgar Morin dans son avant-dernier livre, Connaissance, ignorance et mystère.
La connaissance complexe est le chemin nécessaire pour arriver à l'inconnaissable. Sinon, nous demeurons ignorants de notre ignorance. Notre science nous a rendus savants sur les rouages de la machine, mais ignorants de la machine elle-même. Tout le secret du monde est en nous. Mais il est hors portée de notre esprit, et nous ignorons ce que nous savons. Il y a partout un formidable savoir organisateur et créateur dont nous ne connaissons rien. L'étonnement, qui est au commencement de la philosophie, est ce qui se trouve à la fin. L'univers est étonnant. La vie est étonnante. L'humain est étonnant. L'univers est merveilleux et terrifiant. La vie est merveilleuse et terrifiante. L'humain est merveilleux et terrifiant. La vie est somnambule. L'humain est somnambule. La conscience de notre somnambulisme nous a éveillés sans que notre sommeil en soit troublé. Mais elle nous a apporté la connaissance. Elle nous apporte la reconnaissance de l'inconnu et de l'impensable. Nous ne pouvons espérer qu'en l'éveil de la conscience et en la force de l'amour. Le mystère ne dévalue nullement la connaissance qui y conduit. Il nous rend conscients des puissances occultes qui nous commandent et qui ne sont pas principalement des déterminismes, mais qui sont comme les démons, intérieurs et extérieurs à nous, qui nous possèdent et nous conduisent aux folies, aux ivresses ou aux extases. Ils nous conduisent aux folies, aux ivresses ou aux extases. Ils stimulent et fortifient le sentiment poétique de l'existence. La finalité apparemment dépourvue de sens, vivre pour vivre, comporte la possibilité de faire le choix de vivre poétiquement. Il nous demande d'assumer notre aspiration à la joie et à l'extase qui nous donne le sentiment, illusoire ou véridique, de nous unir à une sublimité innommable qui nous transcende. Il nous fait comprendre que vivre est une navigation dans un océan d'incertitude, avec quelques îlots de certitude pour s'orienter et se ravitailler. Il nous encourage à décider et agir dans l'incertain, en sachant prendre le parti d'Eros dans le corps à corps de sa lutte contre Thanatos. Il aiguillonne notre participation à l'aventure de l'humanité. Et c'est une folle aventure qui mêle le sublime et l'horrible. Elle est partie intégrante, marginale ou en avant-garde de l'aventure de l'univers. Nous continuons notre aventure au sein de l'aventure cosmique, sans savoir où elles vont.
Voilà, nous reviendrons sur ce texte d'Edgar Morin, qui est vraiment très beau à la fin. Alors je voudrais, dans cette dernière émission, vous rappeler d'abord ce qui me semble 10 enjeux majeurs que chacun d'entre nous devrait travailler. Je les cite et les commande brièvement. Il y a la démographie. Nous ne faisons pas assez attention à ce phénomène de la démographie, que ce soit dans notre pays ou dans le monde. La mondialisation, la violence, la technologie, la corruption et la déliance, la nature, le vivant, l'éducation, soi et le politique. Et pour ces 10 entrées, je pense qu'il faut avoir une approche à la fois micro, c'est-à-dire personnelle, individuelle, méso, intermédiaire, des associations, et macro, et rajouter celle du temps, du longtemps. Puis nous nous poserons à la fin la question, mais quel regard porter là-dessus? Mais sur la démographie, pour aller à l'essentiel, rappelons-nous qu'actuellement en France, l'âge moyen de vivre est pour les femmes de 85,3 et de 79,5 pour les hommes. Ça a énormément augmenté à partir de la fin du XXe siècle. Nous continuons à un rythme plus lent. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est l'espérance du vie, mais l'espérance du bien vivre ne bouge pas beaucoup. Il y a là un problème majeur, et ce problème concerne la France, mais il concerne aussi l'Europe. Le vieux continent n'a jamais aussi bien porté son nom. En 2016, il y avait 98 millions de citoyens qui avaient 65 ans et plus, soit environ 20% de la population globale. Et en 2040-2050, il y en aura 30%. Autrement dit, nous sommes un continent qui vieillit. Cette vieillesse a différents aspects. Nous devrions y faire davantage attention. Et puis il y a cette démographie du monde qui va vers les 10-11 milliards d'habitants pour la fin de ce siècle. La répartition se fait autrement et la géopolitique est bouleversée. L'Europe, les Amériques, la Chine, l'Asie, disons, la Russie, dans ce qu'il en reste, l'Afrique. Voilà un enjeu sur lequel nous reviendrons qui est impressionnant. Alors, le premier thème, c'est la démographie. Il nous faut regarder. Le deuxième thème, c'est la mondialisation. La mondialisation, et là faisons une toute petite pause avec une musique qui est porteur de doute, de tragédie. Écoutez-la, vous avez dû la voir dans un film. La mondialisation, ces deux guerres mondiales qui ont marqué le XXe siècle, et ces guerres larvées, ça et là dans le monde, et puis tant de violences, tant de haine, des pauvretés qui surgissent, certaines se résorbent lentement, d'autres apparaissent, des incertitudes, des dictateurs, comme s'ils avaient plus de poids que la démocratie, on reviendra sur ce thème, des inégalités, nord-sud, hommes-femmes, riches-pauvres, le recours à Internet, à la technologie. Mais regardez aussi les inégalités entre les pays du monde. Amusez-vous à vous poser la question combien les États-Unis, la Chine et l'Europe ont envoyé de Sputnik en 2019 et vous comprendrez l'enjeu terrible qui est en train de se préparer avec la guerre des étoiles, plus précisément la guerre du cosmos. Il y a sans doute une autre inégalité qui pointe lentement, dont Edgar a pointé les enjeux. Cette inégalité, c'est à la fois cette espèce de répartition en trois, les nantis, les pauvres qui n'en finissent pas de s'enfoncer dans la pauvreté, et puis un certain nombre, une minorité, qui vont créer des oasis d'amour, comme dit Edgar, des oasis de fraternité, quelques-uns qui vont repenser complètement la raison d'être, le sens de vie. On reviendra sur ce thème. La violence, troisième thème, la violence, elle est partout, elle est inhérente. Je discutais récemment avec des gendarmes. Elle est là dans notre quartier, dans notre commune, dans notre ville. Elle progresse avec le voisin parfois. J'ai été témoin récemment de scènes à peine pensables. Cette violence exprime un mal-être personnel, un mal-être collectif, et il pose des questions redoutables. Il faut aussi parler de la technologie. Cette technologie qui nous apporte des choses extraordinaires, bien entendu, mais qui pose aussi énormément de questions. Je crois que là, il convient de rappeler ce passage de Platon qu'on aurait oublié, semble-t-il. Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait sans y prendre garde dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait et lui restait la race humaine à pourvoir. Il ne savait pas que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme est nu, sans chaussures, ni couverture, ni rame. Et le jour fixé approche, et il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Athéna la connaissance des arts ainsi que le feu. Car sans le feu, la connaissance des arts est impossible et inutile. Il en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie, mais il n'avait pas la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n'avait pas le temps de pénétrer dans l'acropole que Zeus habite et où veillent des gardes redoutables. Ainsi l'homme surgit sur la terre, sans la science politique. Cette politique dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il y a la corruption, la déliance. J'ai passé ce petit texte très court que dit un conseiller à un empereur chinois il y a pratiquement 2000 ans. Récoutons-le encore.
Il y a des siècles, un sage chinois, conseiller de l'empereur, dit à ce dernier « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter très cher en vies humaines. Il vous suffit de détruire son système d'éducation et d'y générer de la corruption. Ensuite, il vous faudra attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. »
Voilà ce texte. Je rajouterai volontiers le merveilleux livre d'Alan Bloom, « L'amour et l'amitié ». Dans ce livre extraordinaire qui est un livre de poche, facile à trouver et à lire, il montre que le lien se défait, le lien humain se défait, non pas par quelque fatalité extérieure, mais simplement parce que nous le voulons. Nous voulons de plus en plus des individus libres et authentiques, c'est-à-dire que nous avons, au lieu de l'amour et de l'amitié, des relations sexuelles, des relations amicales. Mais où est l'amitié? Où est l'amour? Alors Alan Bloom explore l'histoire des hommes et il donne quelques réponses. Je vous laisse les découvrir, chers auditeurs. Mais permettez-moi seulement, avant cette fin de la dernière partie, de vous dire ceci. L'aimant passionné et l'ami fervent peuvent-ils se retrouver dans la même personne? Pourquoi pas? Et Bloom nous invite à étudier les raisons pour que ceci se fasse. À tout à l'heure, chers auditeurs. Continuons, chers auditeurs, dans cette dernière émission de la saison 2018-2019, sur ce thème « Ce monde où va-t-il ? » Je vous suggérerais de garder 10 mots-clés. Démographie, mondialisation, violence, technologie, corruption et déliance, nature, vivant, éducation, soi et politique. Nous étions encore à corruption et déliance. Il y a là quelque chose de tragique qu'on ne voit pas. Comment évoluer? Et pourtant, il y a sans doute des raisons d'espérer, au moins au niveau micro, macro parfois, plus facilement peut-être parfois que le macro, le méso. Écoutons ce que nous dit un auteur que nous aurions oublié, Albert Jacquard, à propos de cette humanité qu'il faudrait réinventer.
Toute étoile, toute planète, toute forme d'existence est appelé à disparaître. Nous ne cherchons pas l'éternité, mais le plein épanouissement de notre humanité. Au mépris des cultures dites primitives, ignorant l'appropriation et la compétition, nous avons mis en place un système culturel, économique, financier, conduisant à la négation d'une grande part des potentialités humaines. Cette étroitesse d'esprit risque d'amputer l'avenir commun de son pouvoir d'imagination, de transformation, de liberté. Inlassablement, Albert Jacquard témoigne et s'engage pour transformer notre société en un espace où l'homme puisse collectivement se réaliser. Il est urgent de réinventer l'humanité, indissociable du sens du partage et de la solidarité, pour enfin oser jouir du bonheur de vivre ensemble.
Albert Jacquard, un auteur si proche de nous encore, comme Henri Laborie, comme Bachelard, comme André de Peretti, comme Edgar Morin, qui est encore vivant et que nous aurons encore une fois dans une émission à la rentrée. Voilà, il y a corruption, il y a déliance, il faut réinventer l'humanité. Tout le monde est à peu près d'accord sur cet enjeu redoutable et tout le monde parle de solidarité, de fraternité. Mais comment la concrétiser? Comment l'incarner? Et puis, il y a la nature. La nature, je dis bien la nature, toute la nature, que nous avons souvent abîmée, mutilée, oubliée, sacrifiée, et qui est pourtant si généreuse. C'est non seulement le climat, les biodiversités, sont les arbres, sont les animaux, sont les oiseaux, c'est tout ce qui nous entoure. Il est urgent dans cette espèce d'écologie intégrale de retrouver le sens de la nature, d'honorer la nature et de nous rappeler que sans la nature, nous avons quelque peine à imaginer notre vie. Et puis, il y a le vivant au sens large. Et là, je pourrais reprendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé en la complétant un peu, et ça donne ceci. La santé, c'est un état complet, un bien-être physique, mental, social, environnemental et spirituel, et qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, mais je dis bien dans un état de santé où chacun prend soin des autres. Justement, à propos de se prendre soin des autres, nous accueillerons l'an prochain Cynthia Fleury, qui a une chaire à Paris. Écoutez bien ce nom, si vous ne la connaissez pas, commencez à lire. Elle vient de publier un petit livre, qui n'est pas cher, 3,90 €, « Le soin est un humanisme ». Et puis avant, elle avait écrit un livre dont on avait beaucoup parlé en France, « La fin du courage ». Et que dit-elle dans ce livre ? « Notre époque est celle de l'instrumentalisation et de la disparition du courage. Mais ni les démocraties, ni les individus ne peuvent en rester à ce constat d'impuissance. Nul ne résiste à cette situation. Alors il faut surmonter notre désarroi, avancer et peut-être retrouver de nouvelles voies du courage. » Quant au soi, elle dit, entre autres, parmi plein de choses, ceci. Je prends juste deux ou trois extraits que j'ai beaucoup aimés. Elle écrit « Beaucoup de patients finissent par se rêver, disparaissant ou sans émotion, pour mettre fin au compagnonnage qu'ils jugent inutile et cruel avec la douleur. Beaucoup se verraient automates pour ne pas souffrir. Beaucoup se comportent aussi pour n'avoir plus à interroger leurs valeurs, leurs pratiques, leur santé physique, psychique et spirituelle. » Et puis plus loin, elle écrit dans ce petit ouvrage, tout à fait merveilleux, mais encore une fois, nous l'accueillerons et nous aurons l'occasion de parler de ses écrits et de plein d'autres. Elle rappelle que lorsque l'on soigne un malade, il faut soigner l'institution, car on oublie de soigner les institutions. Et c'est un thème si important. Et puis enfin, dans ce petit livre, elle nous termine et nous invite à ceci. Plus on crée de machines, plus il faut renforcer la formation des hommes et finaliser la technique afin que celle-ci maintienne l'homme dans son humanisme. Vous voyez que tout est relié. Il y a la question de l'avoir, il y a la question de la technique, mais il y a la question de l'être. Alors, la nature, le vivant qui a tant de formes, encore une fois, qui est quelque chose de fabuleux. Il n'y a pas seulement le vivant de l'homme, mais il y a le vivant de tout ce qui est vivant et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et puis, il y a encore trois mots, éducation, soin et politique. Alors l'éducation est certainement un thème sur lequel j'ai insisté plusieurs fois cette année, parce que, encore une fois, l'éducation n'est pas l'enseignement. Et tant qu'on confondra les deux, on se raconte des histoires. Je vous ai cité un professeur de sciences politiques à Paris qui dit que plus il y a de diplômés, plus, je n'utilise pas son mot, je le pondérerai, plus il y a d'imbéciles. L'éducation, c'est autre chose. L'éducation, elle est d'abord dans le savoir-être. Elle est au cœur de la famille, elle est au cœur du quotidien. Comme le dit récemment un enseignant à des parents, je ne suis pas là pour éduquer vos enfants, je suis là pour les instruire. C'est à vous de les éduquer. Chacun a un rôle d'éducation. Et cette nouvelle éducation, ce nouvel esprit éducatif nous concerne tous tout au long de la vie. Et c'est bien à partir de cette éducation qui existera ou qui n'existera pas que le monde peut s'écrouler ou au contraire renaître. Friedman, Wells, plein de gens nous l'ont dit. Edgar Morin continue de le dire. Mais ce thème n'est pas vendable. Il dérange les adultes sont habitués à éduquer leur enfant, mais eux, s'éduquer, il n'en est pas question. Enfin, vous imaginez, où irait-on si on commence par reconnaître qu'il convient d'éduquer l'adulte? Mais oui, l'éducation tout au long de la vie. Et c'est un thème majeur qui ne se vend pas, qui n'est pas rentable, dont on parle trop peu, et qui pourtant va déterminer l'avenir du monde. Il y a la question du soi et du politique. Alors la question du soi. On n'en finit pas de se connaître, et chacun d'entre nous reste pour lui-même un mystère. Et une vie ne suffit pas pour naître à soi-même. Ça, nous le pressentons, nous le savons, mais qu'en faisons-nous exactement? Qu'est-ce que nous retirons comme conséquence de ces commentaires? J'y reviendrai rapidement à la fin de l'émission. Et puis, il y a la question du politique. En réalité, c'est une question double. Il y a la politique et le politique. La politique, c'est le pouvoir, les manigances, les coups cachés par en dessous. C'est ce pouvoir qui n'en finit pas de quitter son poste parfois. C'est ce pouvoir qui oublie pour qui il est là. Il est là pour assumer une autorité à l'égard du monde. Il y a une réelle crise actuellement dans le monde, la crise du politique. Je citerai là deux livres qui viennent de sortir. L'un d'un professeur qui est à Singapour et qui nomme son livre « L'Occident s'est-il perdu ?» Une provocation. Cet auteur écrit un petit livre passionnant qui est paru chez Fayard, je vous le mettrai dans la note de synthèse. Il se pose la question, est-ce que l'Occident a encore une chance? Ou est-ce que l'Occident, dans cette espèce d'évolution du monde, a fini sa partie et que désormais la partie est à la Chine, à l'Inde demain, à l'Afrique, mais l'Afrique est un continent avec de nombreux pays qui arrivera autour de 2050 à 1,2 milliard d'habitants? Est-ce que le jeu du monde désormais se joue entre quatre entités, les États-Unis et derrière les Amériques, la Chine et derrière l'Asie, la Russie, mais qu'est-ce qu'il en reste? Et l'Europe, qu'est-ce qui va en rester? Et puis l'Afrique, que fait-on de l'Afrique? Va-t-on les uns prendre leur terrain, leurs ressources? Est-ce qu'on va continuer des formes d'esclavage? Ou est-ce que l'Afrique va être en mesure d'assumer au monde un certain message? C'est une question fondamentale. Mais la question de l'Occident et de sa place dans l'humanité n'est pas terminée. Et l'auteur est quand même optimiste à la fin. Il nous indique quelques pistes. Il nous dit à quelles conditions l'Occident pourra conserver un rôle dans la géopolitique des temps futurs, mais certainement pas en agissant comme il le fait aujourd'hui. Il y a un autre auteur, très intéressant, un Français, Kourouliski, qui est un scientifique qui vient de sortir un petit livre de la science et de la démocratie. La démocratie, la liberté, c'est des mots qu'on utilise facilement. Il nous rappelle, cet auteur, que les démocraties sont à leur manière des systèmes vivants. Il ne suffit pas qu'elles vivent, il faut qu'elles survivent. Et Kourouliski, dans ce livre, agit en citoyen et en scientifique, appliquant les concepts de robustesse et de complexité, qui sont centraux en biologie par ailleurs. Il met à jour les défauts de la démocratie, qui expliquent la crise actuelle, défauts d'altruisme, qui font de devoir de solidarité, de discussion qui permet la participation à la vie démocratique, d'efficacité sans laquelle il n'y a pas de blindette. Bref, il ouvre des pistes pour réinventer le politique et peut-être demain refonder la politique. Voilà 10 mots très importants qu'il nous faut toujours avoir à l'esprit, car je crois qu'ils commandent notre éducation, notre culture pour les temps qui viennent. Alors, j'ai demandé à des étudiants de choisir une musique pour colorer l'éducation. Et ils ont choisi cette musique, je vous dirai après laquelle. Thank you. Oui, cette magnifique musique, c'est celle du merveilleux film Le Cercle des Poètes Disparus. Alors, quel regard poser sur notre monde ? Chacun oscille entre le pessimisme et l'optimisme. Si vous voulez connaître le mien, je dirais qu'il est optimiste, avec quatre mots. Résistance, création, tragique et lucide. Résistance parce que si nous n'apprenons pas à dire non à certaines choses, nous ne pourrons jamais dire oui. La création, parce que nous sommes aussi responsables de la création, modestement, très modestement parfois, mais la valeur ajoutée que nous accordons, que nous donnons à la création, est essentielle. C'est tragique, oui. La vie est tragique. Le monde est tragique, comme le rappelait tout à l'heure Anna dans une de ses lectures. Mais il faut être lucide. Ce mot qui est de François Julien, sur lequel il insiste, et qu'il dit que c'est au nom de la lucidité qu'on entre dans la seconde vie. La première est plus marquée par la voix, la seconde par l'être. Ce monde, où va-t-il ? Tel était le thème de cette saison 2018-2019. Nous avons retenu 10 mots autour desquels se joue en grande partie l'avenir du monde. Démographie, mondialisation, violence, technologie, corruption et déliance, nature, vivant, éducation, soi, et le politique et la politique. Ce monde, où va-t-il ? Nous n'en savons rien. Théodore Monod nous rappelle, et si le monde échouait, cela peut arriver. Alors dans ce cas, il resterait le cosmos, lui-même abîmé par la guerre que nous y transportons. Il peut rester dans cette espèce d'état de pouvoir redoutable, de corruption, d'îlot, d'oasis, de confiance, mais pour une minorité et pour la majorité d'autres formes d'inégalité en plus de celles qui existent. Il peut éventuellement réussir, mais dans ce cas-là, il faudrait la fraternité. Et sur ce thème que nous allons terminer l'émission, Edgar Morin vient de sortir à Actes Sud un tout petit livre, La Fraternité. Et le sous-titre, c'est « Résister à la cruauté du monde ». Il nous redit que tout ce qui se ne régénère pas dégénère. Il en est ainsi de la fraternité. La fraternité, moyen de résister à la cruauté du monde, doit devenir but et sans cesse d'être moyen. Le but ne peut être un terme, il doit devenir chemin, notre chemin, celui de l'aventure humaine. Cela demande qu'avec la pleine conscience d'être parti et participant, j'ajouterai personnellement responsable de la grande aventure, nous devons nous inscrire dans des aventures locales, des oasis, arrière-garde d'humanité, dans les barbaries triomphantes, avant-garde d'humanité, s'y entrevoit la possibilité d'un futur meilleur. Alors arrive la fin de notre émission. La question se pose à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ma vie, j'ai oublié de la vivre, je l'écris, disait Pirandello. Vous vous souvenez, je citais cette citation il n'y a pas très longtemps. Ma vie, je l'ai consommée, mais je ne l'ai pas produite. Ma vie, je suis passé à côté, disent des gens à des infirmières qui interrogent des mourants de toute origine sociale aux États-Unis. Et si nous écrivions, et si nous faisions attention à l'art, à la fraternité, pour mieux exister ? Car quand je partirai, des mystères surgiront toujours, des ignorances seront toujours là, et il restera la valeur ajoutée de ce mot amour si galvaudé, dont on ne sait plus très bien parfois ce qu'il est, mais peut-être que c'est le mot clé d'une vie. Quelle est la valeur ajoutée de l'amour que j'aurais fait de mon passage ? Alors l'an prochain, pour la prochaine édition 2019-2020, nous aurons comme thème explorer notre quotidien. Déjà, tout est prêt. Je vous donnerai le site sur lequel vous pouvez le retrouver. Et déjà, un certain nombre de nos invités sont réunis. Il y a Bertrand Vercholi, que vous avez déjà rencontré sur cette antenne, Boris Cyrulnik, à qui nous poserons des questions très particulières, Edgar Morin, Alexandre Slagler, qui vient de faire un merveilleux livre « Ode à la bienveillance », Philippe Brémaud, qui s'interroge sur le couple d'une façon très originale, Cynthia Fleury, dont j'ai parlé tout à l'heure, Tim Inglod, un anthropologue de l'Écosse, qui est absolument extraordinaire. Je traduis actuellement un document de lui. Alberto Ruiz Sanchez, que j'ai découvert grâce à ce que Montauban fait. Oui, à Montauban, à côté de Toulouse, il n'y a pas seulement des problèmes pour accueillir, j'allais dire, des gens dans la rue, dont la presse l'a largement parlé. Il y a un merveilleux festival du livre, et c'est à grâce à ce festival du livre que je rencontrerai au début 2020 Alberto Ruiz Sanchez, qui est un homme extraordinaire au Mexique. Nous irons en Afrique où nous allons découvrir deux auteurs. Je suis en train d'en choisir un pour le Moyen-Orient, et puis bien entendu de la région. Alors pour connaître ce programme, pour entendre cette émission dès demain, eh bien vous allez sur le site www.culture-education-singulier.com/ Je répète, www.culture-education-singulier.com. Vous aurez cette émission et le programme de l'an prochain. Je veux terminer cette émission par dire merci à deux personnes qui sont autour de moi. Il y a d'abord Arthur, qui est face à moi pendant cette émission, qui nous accompagne, qui le fait avec énormément de compétences et, j'allais dire, de passion. Et je voudrais dire, chers auditeurs, que cette émission n'existerait pas sous cette forme si Arthur n'était pas là constamment pendant les émissions. Puis il y a Anna, qui parfois nous lit des textes, choisit des musiques, et webmaster du site dont je vous ai parlé, à ces deux jeunes qui annoncent sans doute le futur mieux que moi encore, je dis merci. Et à vous, chers auditeurs, très belles vacances. Chers auditeurs, en postface à cette émission et à cette saison, je voudrais vous parler d'un livre écrit par Daniel O'Doherty. Le titre, Une vie d'émotion. Daniel nous a quittés. Il était jeune, il était plein d'espoir, il était enseignant. Ses parents n'avaient que lui comme enfant. Daniel avait réuni un certain nombre de poésies, de dessins. Et un jour, ses parents m'ont demandé si je pouvais les faire imprimer. Je les ai fait imprimer grâce à un autre ami, comme quoi le réseau de fraternité joue. Et je vous lis sa dernière poésie, Levée du voile. La voici. Voici ma fin arrive et je quitte la terre. À 80 ans passés parmi les hommes, mais je n'errerai en effrayant fantôme, j'ai déjà accompli ce que j'avais à faire. Mon corps n'est plus utile et redevient poussière. Libéré, je m'en vais vers un nouveau royaume. Je vois toute ma vie depuis que j'étais môme, jusqu'à mon dernier souffle, et dès lors tout s'éclaire. Désormais, je comprends le sens de toute chose. Avec tout l'univers, je me sens en osmose. Tout ce qui vous arrive a une raison d'être. Rien de qui ne se passe ne se produit pour rien. Poursuivez le chemin. Tout comme vos ancêtres, au bout de la route, triomphera le bien. Daniel O'Doherty, Une vie d'émotion, édition de Bergier. Si vous passez à Cabris, demandez à la personne qui tient les journaux, Alain, s'il a encore ce livre. S'il l'a pas, il va se le procurer. Je vous l'offre pour vos vacances. Très bonnes vacances.
Thank you.